un protocole extrêmement clair sur ce genre de démarche. Donc non, il n'y a pas de débat, en tout cas pour le moment, sur ce sujet.
Sur le débat des collections de restes humains, qui sont pour le coup d'ailleurs codifiées dans une loi, je crois, de décembre 2023, comment ce débat se pose ?
Alors, vous l'avez dit, il y a une loi qui est passée le 23 décembre 2023 qui donne un cadre très clair à la restitution des restes humains. Nous avons effectivement une collection importante au Musée de l'Homme de restes humains. Donc nous, on s'inscrit tout à fait dans le cadre de la loi.
C'est difficile de retrouver leurs héritiers souvent, hein, quand c'est Néandertal ou l'homme de Cro-Magnon.
Ah, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Et puis, Cro-Magnon, il était français surtout, puisque il vient des Ézides, en Dordogne. Non, on a effectivement un certain nombre de collections, notamment d'époque coloniale, qui sont conservées aujourd'hui dans les réserves du Musée de l'Homme. Et donc, on travaille de façon tout à fait apaisée sur ces sujets-là, sur les demandes de restitution qui sont en cours, avec des commissions paritaires selon les demandes des pays, et un gros travail de provenance est actuellement fait justement sur l'origine de ces collections.
Parlons un instant des enfants, puisque vous avez tout un programme, parce que c'est assez scolaire quand même, musée, quand on va le voir, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Vous avez notamment une exposition au rez-de-chaussée qui s'appelle Silex in the City, très drôle de nom, faite par Jules, je crois. Donc là, c'est l'idée quand même d'attirer les enfants avec d'autres manières de leur parler.
Oui, on a un public familial important et c'est important pour nous de s'adresser à tous les publics. Une exposition comme Silex and the City, qui est basée sur la BD et le dessin animé créé par Jules, nous permet effectivement d'aborder des sujets de préhistoire, puisqu'on a fait dialoguer cette BD et cet auteur avec un paléoanthropologue maison, Antoine Balzo. Et de ce dialogue, on essaie d'expliquer finalement ce qu'est la préhistoire et comment, à travers des sujets contemporain, on peut aussi parler de préhistoire et comment finalement ce très lointain passé raconte quelque chose de ce que nous sommes aujourd'hui.
Je rappelle que vous êtes Aurélie Clémenté-Ruiz, la directrice du Musée de l'Homme, mon invitée ce soir. Et je vous ai préparé un petit quiz, poser quelques questions. Après avoir visité à la fois les collections permanentes et l'exposition temporaire, donc quelques questions sur ce que j'ai vu et puis un peu d'autres, comme ça, pour mettre un peu de piment dans notre discussion. Alors je commence, c'est une question facile, hein, c'est vraiment le béaba. Qui a écrit « Je hais les voyages et les explorateurs » ?
Vous avez bien regardé l'exposition Migration, est-ce que je vois ? Alors je vous dis, moi j'ai pas révisé.
C'est la première phrase de Triste Tropique, de Claude Lévi-Strauss. Première phrase du livre. Deuxième, qu'est-ce que le Beagle ?
C'est un bateau.
C'est un bateau. Pourquoi ? Le fameux bateau de Darwin, lorsqu'il...
C'est le bateau qui, effectivement... quand Darwin a travaillé sur sa théorie, il a arpenté le monde, en tout cas il a voyagé, et c'est ces voyages qui ont nourri ses réflexions, et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que à partir de constats qu'il a fait à travers ses voyages et ses découvertes, il a élaboré donc cette théorie
ouais.
Qui voilà, aujourd'hui est enseignée un peu partout et qui a été une révolution quand même, il faut le savoir. Ça a été extrêmement controversé lorsqu'il a énoncé sa théorie.
De l'évolution.
De l'évolution, oui, pardon. C'est vraiment une révolution complète qu'il a effectuée en écrivant ces textes-là qui sont toujours aujourd'hui d'actualité.
Alors j'ai regardé les nombreux personnages, les nombreux squelettes qui sont dans ce musée. Quel est votre type d'homme finalement entre, je vous en donne trois, Cro-Magnon, Néandertal et Yuval Noah Harari. Il est très présent.
Alors,
lui aussi,
oui,
avec Sapiens et tous ses livres que vous vendez.
Alors, Cro-Magnon, il faut savoir que le squelette original de Cro-Magnon est dans les collections du Musée de l'Homme. Donc ça, c'est vraiment pour nous un de nos chefs-d'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça atteste Homo sapiens en Europe, en France en l'occurrence, puisqu'il vient du sud de la France. Donc c'est vraiment un élément extrêmement important. Et on le présente à côté de Néandertal, puisqu'on raconte qu'à cette époque-là, il n'y a pas qu'une seule humanité, il n'y a pas qu'Homo sapiens, il y a Néandertal aussi, ils cohabitent, ils coexistent ensemble, notamment en Europe, et c'est important de le rappeler, puisqu'aujourd'hui on est tous Homo sapiens, hein, il n'y a plus de Néandertal, même si on garde quand même quelques gènes de Néandertal dans notre ADN, ça nous permet vraiment de raconter aussi ces différents types d'humanité qui ont pu exister à travers les siècles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Autre élément du quiz, qui a dit quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose un problème. C'est dans votre exposition.
C'est exactement, vous faites référence à un néon que nous présentons dans l'exposition Migration qui fait référence à la phrase prononcée par
Brice Hortefeux en 2009.
Ouais. Exactement. Et en fait, on présente cette œuvre dans l'exposition Migration pour justement dénoncer un certain nombre de clichés et d'idées reçues autour des migrations, parce que finalement, ce genre de petites phrases lancées à l'emporte-pièce, ben finalement, elles restent.
La preuve est dans votre exposition
et on
en parle dans cette émission.
On en parle, et donc c'est justement en contrepoint, en disant, ben voilà, ce genre de petites phrases, elles restent, les artistes s'en emparent, et nous, ça nous permet maintenant, à travers l'exposition, de questionner ce type de réflexion pour voir que finalement, il faut encore une fois prendre beaucoup de recul quand on dit ce genre de choses.
Allez, deux derniers personnages qu'on pourrait avoir dans votre musée pour savoir si vous aimeriez les avoir. Le premier, c'est Yorick. C'était qui Yorick, vous vous souvenez ?
Non.
C'est le fameux, vous savez, le fameux personnage. Il pourrait être au musée de l'homme, peut-être. Le fameux, c'est le crâne que Hamlet prend dans sa main. Pour
évoquer,
on pourrait le mettre la fameuse scène des croquements magnifique où Hamlet va finalement il rencontre ce squelette, ce crâne et il se découvre que c'est son jeune prof, enfin son prof quand il était jeune et voilà qui est évidemment mort depuis longtemps. Autre squelette, est-ce que vous aimeriez éventuellement le récupérer? Quel est ce squelette qui a été découvert récemment dans les sous-sols de Notre-Dame de Paris?
Ah, alors il y a plusieurs squelettes qui ont été découverts
dans les sous-sols.
Mais le plus magnifique,
qui a changé notre
de Paris.
Qui m'a rendu tellement heureux.
Ah bon ?
Oui.
Pourquoi ?
Bah parce qu'on a retrouvé le squelette de Joachim du Bellay.
Et Joachim du Bellay, alors on
vous
a...
pourrait peut-être le réclamer.
On pourrait peut-être le réclamer. Je pense qu'il ira surtout au musée Notre-Dame, puisque il va y avoir un musée créé à côté de la cathédrale Notre-Dame. Mais c'est intéressant de voir que il y a toujours un intérêt pour ces grands personnages. Nous, dans la collection, par exemple, on a le crâne de Descartes. Et les visiteurs sont toujours très étonnés de savoir que on peut posséder et présenter le crâne de Descartes, qui est un crâne comme les autres, j'ai envie de dire, qui n'a rien de particulier, alors que c'était un grand penseur et philosophe.
Bien, merci infiniment à vous, Aurélie Clémenté-Ruiz. Résultat du quiz, 3 sur 6, finalement.
Ah ben voilà, j'avais pas révisé.
Passable,
ce que
vous avez quand même réussi.
Désolée.
L'examen.
Merci.
Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. Je rappelle que vous dirigez le musée de l'homme et que vous réfléchissez. Peut-être d'ailleurs, les éditeurs peuvent vous écrire pour vous proposer un nouveau nom pour ce musée. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir. Dans un instant, le grand focus du dimanche soir, après la chute de Bachar al-Assad, transition politique et développement économique des pays musulmans. Restez avec nous.
Vous écoutez France Culture.
Ce lundi, nous parlons de la pression scolaire.
Louise Touret.
Emploi du temps trop chargé, notes en contrôle continu au lycée, paliers d'orientation présentés comme cruciaux, l'éducation nationale accablerait-elle ses élèves? Alors que les évolutions de Parcoursup viennent d'être annoncées pour 2025, nous y réfléchirons en profondeur avec nos invités.
Être et savoir, ce lundi à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Sindbad, un marin de Bagdad, nous raconte les 7 voyages qui, tout au long de sa vie au 9e siècle, lui ont permis de s'enrichir et parcourir des terres inconnues.
Vous n'avez peut-être entendu parler que confusément de mes étranges aventures. Je vais vous en faire un rapport fidèle. Je crois que vous ne serez pas fâché de l'entendre.
Sindbad le marin, un conte des mille et une nuits. Réalisation Christophe Hoquet, à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
19h09 sur France Culture. Soft Power, magazine de géopolitique culturelle, numérique et médias, ainsi que de politique culturelle de France Culture. Et c'est tout de suite le grand focus de ce dimanche. Après la chute de Bachar al-Assad, transition politique et développement économique des pays musulmans. Alors, il y a quelques jours seulement, le régime dictatorial de Bachar al-Assad s'est effondré, suscitant une vaste vague de soulagement au Moyen-Orient, avec le retour de centaines de milliers de réfugiés déjà, mais précipitant la Syrie dans l'inconnu. Ce soir, nous avons choisi de nous intéresser à l'économie de la Syrie et plus largement à celle des pays musulmans pour essayer de comprendre l'influence de l'islam sur l'économie. Pourquoi tant de retard dans le développement économique et politique au Moyen-Orient, en dépit des succès financiers éclatants, ceux notamment des pays du Golfe. Alors nous étions pour préparer cette émission dans trois pays. Nous étions en Égypte tout récemment, en Indonésie un tout petit peu avant et en Bosnie-Herzégovine. Trois pays avec évidemment trois islams très différents. Mon invité ce soir est Benjamin Marx, professeur d'économie à l'université de Boston, Boston University. Rebonsoir monsieur.
Rebonsoir Frédéric.
Alors on pourrait peut-être commencer par l'état de l'économie de la Syrie, au moment même où le régime change, et on ne sait pas exactement ce qui va bien sûr se passer. Où en est-on sur le plan économique d'un pays comme celui-ci?
Alors l'économie de la Syrie, elle est dans un état, pour dire ce qui est, catastrophique. C'est un pays qui est exsangue et qui est sous perfusion de l'aide internationale depuis déjà plusieurs années. Le principal facteur et ce qui a conduit à cette situation, c'est évidemment le conflit depuis 2011.
Une sorte de guerre civile soutenue par tout un tas de puissances étrangères.
10 ans de conflit et de fragmentation avec des interventions étrangères de nombreux pays dont on parlera certainement. Avant la guerre, la Syrie était un pays qui avait connu quelques succès en matière de développement économique. C'était un pays où la pauvreté extrême, donc qu'on définit aujourd'hui comme le seuil de la fraction de la population qui vit avec moins de 2 dollars par jour, il n'y avait pratiquement pas de pauvreté extrême en 2011 en Syrie. Aujourd'hui, on estime qu'environ un quart des Syriens vivent dans la pauvreté extrême. Et 2/3 des Syriens vivent dans la pauvreté. Le PIB du pays a été divisé par 2.
La moitié de la population au moins a quitté le pays.
La moitié du population a été déplacée soit à l'extérieur des frontières
donc
de la
beaucoup
Syrie.
Beaucoup en Turquie, énormément au Liban, ailleurs.
Exactement. En fait, la Syrie, c'est un des rares pays qui a été reclassifié par la Banque mondiale en 2018 de pays, du statut de pays à revenu moyen au statut de pays à bas revenus. En général, les pays connaissent plutôt la transition inverse et malheureusement, en raison du conflit, la Syrie a connu ce déclassement.
Autre élément de cette économie syrienne, d'abord une corruption généralisée et une économie informelle naturellement très, très importante.
Tout à fait. Ces deux éléments sont très présents. L'économie informelle rend très difficile l'évaluation exacte, en fait, de l'état de l'économie de la Syrie. Aujourd'hui, des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI utilisent beaucoup des données annexes, en fait, pour comprendre la situation économique en Syrie. Donc, par exemple, on utilise beaucoup les données satellitaires de luminosité nocturne pour savoir comment évaluer la croissance d'une année sur l'autre en présence d'un très large secteur.
C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de lumière, c'est que les gens ont des moyens pour...
Voilà, alors on a montré depuis 10-15 ans en économie que la lumière satellitaire de nuit est corrélée avec beaucoup d'indicateurs économiques qu'on peut mesurer sur le terrain. La présence de la population, bien sûr, l'électrification, la consommation, etc. Et donc dans de nombreux pays, comme la Libye aussi d'ailleurs, la Banque mondiale se fie beaucoup à ces indicateurs.
Il y a une autre spécificité de la Syrie, ça a été le narcotrafic, d'une certaine manière, en particulier d'un produit qui s'appelle le captogon. Le captogon qui est d'abord qui est une manne financière très importante du régime déchu. C'est une drogue de synthèse, une sorte d'amphétamine, pour le dire vite. C'est aussi ce qu'on appelle le speed ou la cocaïne du pauvre en Occident. Donc là, ça a été très développé par le régime de Bachar al-Assad.
Tout à fait. Et j'ai lu également que le captagon, le fentanyl, hein, tous les dérivés représentent des montants considérables et une source de revenus considérable pour l'économie de la Syrie sur la décennie écoulée. Donc on estime par exemple que les exportations de captagon représentaient entre 2 et 6 milliards de dollars par an. Donc c'est à peu près le montant du PIB syrien. Et c'est largement supérieur aux exportations légales de la Syrie. Ça a pu donc constituer une source sources de revenus qui affluaient vers certains groupes, vers certains acteurs au sein du régime et possiblement en dehors. Il faudra voir comment cette situation évolue, comment ce narcotrafic évolue.
S'il est stoppé, encouragé, ou s'il demeure.
Il y a des très fortes pressions des autres pays du Golfe, notamment
l'Arabie Saoudite,
pour freiner ce trafic, tout à fait. Après, est-ce qu'ils seront en mesure de le freiner, c'est toute la question.
Pour terminer sur cet état, disons, un peu général de l'économie de la Syrie, est-ce qu'on peut le comparer à partir d'indicateurs économiques qui sont quand même difficiles, évidemment, à avoir dans un pays en guerre et en guerre civile, à d'autres pays comme la Libye, également en guerre civile, l'Irak, pour une part l'Afghanistan ou le Liban ?
Oui, alors ce sont des pays qui sont dans des situations bien sûr très différentes. Dans cette liste, je dirais que la Libye est peut-être le pays le plus proche de la Syrie en termes de situation économique et financière. L'Irak a peut-être quelques années d'avance dans la reconstruction. C'est déjà un pays où il y a beaucoup d'investissements publics et privés en matière d'infrastructures pour reconstruire notamment l'infrastructure de production pétrolière qui constitue la grande majorité des revenus de l'État irakien. Mais la Libye connaît le même état de fragmentation, de morcellement que la Syrie a connu depuis 10 ans. Donc elle est effectivement dans une situation un petit peu similaire.
Alors venons-en à ce qui est le sujet central de cette émission, c'est qu'à partir de la chute de Bachar al-Assad, on voulait ce soir s'intéresser aux transitions politiques et au développement économique des pays musulmans à partir d'un constat qu'on entend souvent quand on voyage dans ces pays. C'est d'abord l'absence ou en tout cas la faible croissance économique dans le monde musulman, à l'exception des pays du Golfe, on y reviendra tout à l'heure, et de quelques autres pays comme par exemple l'Indonésie, on en parlera aussi. Donc là ce sont de spectaculaires, je dirais, exceptions. Et ce déclin du monde musulman, qui date d'ailleurs d'il y a longtemps, hein, qu'on estime dès le XIVe siècle, il y a un décrochage, encore plus au XVIIIe et au XIXe, c'est à peu près ça la temporalité ?
Ouais, alors c'est vraiment au XIXe siècle que les Occidentaux commencent à poser cette question. Est-ce que l'islam est un facteur de croissance et de développement économique ? En comparant un petit peu la situation de forte croissance dans le monde occidental avec celle du Moyen-Orient, qui connaît à cette époque-là une période de stagnation économique. Et donc c'est une question très ancienne que les Européens ont posée, que d'autres personnes dans le reste du monde ont posée, et c'est une question à laquelle se sont intéressés de nombreux chercheurs. On en parlera certainement.
Alors les musulmans, quand on les interroge, et on va les écouter puisque nous sommes allés sur le terrain en Égypte, on était en Indonésie également, en Bosnie, pour essayer de comprendre comment ces questions s'articulent. Au fond, il y a deux grandes explications, en gros, de manière assez simple, par rapport à ce déclin ou à ce retard dans les pays musulmans par rapport au développement. Encore une fois, avec de spectaculaires exceptions dans le Golfe, liées évidemment essentiellement au pétrole ou au gaz. La première explication, c'est au fond qu'on n'a pas assez suivi l'Occident, qu'il fallait que l'islam soit moins présent, que la laïcité, le sécularisme était la clé, et que donc il fallait plus d'occidentalisation, et que l'islam est finalement le problème à ce développement. Et puis il y a une toute autre position, également très fréquemment défendue, au contraire de la précédente, c'est qu'on n'est pas resté assez fidèle à l'islam, à la charia, que le Coran finalement est la solution, que toutes les solutions se trouvent dans le Coran et dans l'islam, et qu'il faut d'une certaine manière plus d'islam pour régler le problème du développement. Et ça, c'est la théorie notamment des frères musulmans, on en entendra tout à l'heure. Quel est votre... D'abord, pourquoi est-ce que ce débat est bien posé, même s'il est là très simpliste? Et que pensez-vous de manière assez générale sur ces différentes hypothèses?
Alors, c'est une très vaste question.
Très étudiée.
Très étudiée. Vous avez tout à fait raison de souligner l'existence de ces deux courants de pensée, hein, qui ont existé depuis presque un siècle, en fait. Je dirais que la solution, c'est ni l'un ni l'autre.
Elle est entre les deux.
on va en parler certainement, mais il y a effectivement beaucoup de chercheurs, d'écrivains qui, à travers les années, au cours du XXe siècle, ont accusé l'islam, les croyances islamiques et les institutions islamiques d'être un facteur du sous-développement. Très largement, ces théories ont été battues en brèche par des études à la fois théoriques et empiriques, à travers différentes sciences sociales, pas seulement l'économie. Quant à la deuxième école de pensée auquel vous faites référence, donc une école de pensée qui voudrait que les institutions islamiques puissent-elles puissent être elles-mêmes, excusez-moi,
un frein, ouais.
Un facteur de développement, si j'ai bien compris. Là encore, il y a assez peu d'études qui étayent cette position. En réalité, la...
Ni frein, ni facteur de développement.
Ni frein, ni facteur. C'est sans doute, au total, un facteur assez neutre, en fait. Mais l'approche qui a été celle des économistes ces 20 dernières années, ça a été de déconstruire cette question et de poser la question institution par institution. Quel est l'impact de telle institution, X ou Y, sur le développement économique, sur la prospérité, sur le bien-être, sur la santé, etc.
Les institutions dont vous parlez, on pourrait parler ça aussi des structures, oui, ou des piliers, des infrastructures, même si on voulait être plus marxiste, et je sais que vous appelez Benjamin Marx, et là c'est une note d'humour, sans jeu de mots. Quelles sont-elles, notamment pour les... on va revenir sur chacune en détail, mais en gros...
Alors effectivement, quand je parle d'institution, je parlais dans un sens très large de tout ce qu'on désigne en économie comme étant les règles du jeu, entre guillemets. Donc les règles du jeu qui régissent les rapports, les interactions entre les hommes, entre les entreprises. Et donc ça recoupe la fiscalité, par exemple.
Donc là, il y a une finance islamique, une fiscalité islamique spécifique.
Tout à fait. Le Coran est relativement spécifique et donne des instructions précises en matière de fiscalité. Donc le zakat est un des piliers de l'islam.
C'est la contribution, c'est ça? C'est une sorte d'impôt islamique? Voilà.
Le zakat est un impôt islamique qui se réduit dans sa forme la plus simple à un impôt sur la fortune qui s'élève à environ, selon les jurisprudences, mais en général, on parle de 2,5% de la richesse ou de l'épargne. Il y a un autre impôt qui s'appelle l'ouchour, qui est une sorte de dîme sur les récoltes, donc prélevé de manière annuelle. Par exemple...
Ça, c'est quasiment féodal, sans vouloir...
C'est quasiment féodal, et en fait, c'est des outils fiscaux qui sont assez rudimentaires et qui ont disparu dans la période, dans l'âge d'or islamique, au 12e, 13e, 14e siècle. En fait, c'est des outils fiscaux qui ont été assez vite abandonnés parce qu'ils étaient trop rudimentaires. En revanche, dans la période actuelle, le régime taliban en Afghanistan, par exemple, pratique l'ouchour et le zakat, et le pratique de manière systématique sur l'ensemble du pays. Donc, pour un régime tel que le régime taliban, l'existence de ces règles qui sont un petit peu connues par tout le monde facilite la mise en œuvre rapide d'une fiscalité dans un État qui est bien sûr en grand besoin de revenus.
Autre structure, pour terminer, sur les 5 ou 6 dont on veut parler ce soir?
Alors, on pourrait parler, par exemple, de la structure des Wakaf, qui est une sorte de, ce qu'on appelle en anglais, une sorte de trust.
C'est une fondation, en gros.
Une fondation qui, à l'origine, repose sur une donation faite à perpétuité avec un but religieux ou caritatif.
On ne peut pas changer, généralement.
Voilà, qui est inaliénable, que le souverain politique ne peut pas exproprier.
Il y a aussi le ramadan, le hajj, il y a aussi la charia par certains aspects. Et puis l'usure, on y reviendra, c'est-à-dire notamment le refus de l'usure, puisque les prêts doivent être vertueux et sans usure, c'est-à-dire sans intérêt. Là, on rejoint la finance islamique. Alors sur ces questions qui vont être d'ailleurs reprises par la personne que je vous propose d'écouter maintenant, nous sommes au Caire, dans l'appartement privé du tchèque Hassan al-Shafi, l'un des principaux religieux de la grande mosquée Al-Azhar, qui influence par ses fatwas l'islam sunnite partout au Moyen et au Proche-Orient. Monsieur Hassan al-Shafi est considéré comme proche des frères musulmans. Il a 94 ans, donc écoutez-le bien parce que sa voix est un peu compliquée. Il est encore aujourd'hui professeur de théologie. Lors de cet entretien réalisé la semaine dernière en Égypte, chez lui donc, au Caire, je lui ai demandé quels étaient les effets de l'islam justement sur l'économie. Le cheikh d'Al-Azhar, Hassan al-Shafi.
Le monopole est haram. C'est interdit par le Coran. Un juge peut obliger quelqu'un à vendre des choses, en particulier si les autres ont besoin de manger ou d'avoir ces choses. Je pense que c'est un aspect de l'économie qui n'est pas accepté dans l'économie libérale, alors que pourtant, on peut le trouver chez Marx. De même, les piliers de la religion elle-même, la zalat, la prière, le saoum, le jeûne, le hajj, le pèlerinage et la zakat, l'aumône, font partie de la religion. La zakat, l'un des piliers de l'islam, stipule qu'un musulman doit verser 2,5% de son salaire chaque année. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de l'économie ? La religion est une chose, l'économie en est une autre. Mais il y a une relation entre la politique et la religion, que ce soit le christianisme, l'islam ou une autre religion. Il y a une relation. Le problème, c'est que les banques islamiques tentent d'utiliser les idées de l'islam pour créer, pour lancer de nouvelles voies. Mais ça ne fonctionne pas. On ne fait que répéter le même système occidental.
À l'instant, donc, le cheikh Hassan Al-Shafi de la Grande Mosquée Al-Azhar du Caire. Au fond, il redit un peu ce que vous avez dit, d'une certaine manière, ce cheikh.
Et je vais rebondir sur la dernière chose dont il parle. Il parle de la finance islamique et il critique un petit peu les banques
l'utilisation,
islamiques qui reproduiraient un modèle occidental d'usure et d'intéressement. En fait, sur ce point-là, il n'a pas complètement tort. C'est-à-dire que les banques islamiques qui pratiquent la finance islamique, qui se sont positionnées sur ce marché un petit peu religieux, avec l'idée d'être attractives pour des gens croyants, en réalité, ces banques, comme les banques occidentales, cherchent à se financer par différents moyens.
Et acceptent les intérêts.
Alors, elles trouvent différents stratagèmes et différents moyens pour parvenir à se rémunérer sur différents investissements, tout en n'appelant pas ça un taux d'intérêt. En fait, ce sont des pratiques qui ont existé dans le monde musulman depuis les origines. On sait que d'ores et déjà, au 10e ou 11e siècle, il y avait des légistes islamiques qui conseillaient les financiers pour leur conseiller justement des moyens de contourner un petit peu les règles strictes édictées par l'islam en matière d'interdiction.
Parce que sur ce sujet, l'islam, au fond, considère que le prêt avec intérêt est interdit par, c'est interdit par le Coran.
Comme cela a été le cas dans le christianisme pendant des décennies.
Mais en même temps, quand on va en Arabie Saoudite ou dans les Émirats Arabes Unis, on s'aperçoit que c'est assez loin de... L'application est assez discutable.
Les banques islamiques trouvent d'autres moyens pour bien sûr générer des profits. Donc la structure typique, c'est ce qu'on appelle en anglais « profit and loss sharing ». Donc l'idée est de partager les revenus qui viennent d'un investissement possible avec des contrats extrêmement complexes entre le prêteur et l'emprunteur. Mais l'idée est bien la même que celle de banques dans le monde occidental, c'est-à-dire de générer des revenus sur des investissements financiers.
Mais en même temps, cette critique qui peut nous apparaître comme étant un peu archaïque, en réalité, c'est aussi toute la critique qui est faite du capitalisme financier. C'est un peu la même idée.
Tout à fait. Et il y a eu dans le monde musulman, comme dans d'autres sphères culturelles, des décennies de réflexion et de travaux pour poser la question comment rendre nos institutions fondamentales, religieuses, compatibles avec soit le capitalisme, c'est ce qui est la question posée à la période actuelle, mais aussi à une certaine époque, le socialisme. À la période de Nasser, dans les années 60, beaucoup de théologiens musulmans se posaient la question comment rendre l'islam compatible avec le socialisme. Donc l'islam a toujours été un petit peu confronté à ces questions depuis le XXe siècle. Et ce sont des réflexions qui, bien sûr, se poursuivent dans les mosquées et les madrassas du monde musulman.
Alors pour revenir précisément sur ce sujet, je vous propose de nous intéresser quelques minutes à un intellectuel orientaliste, juif et marxiste, Maxime Rodinson. Il était membre du Parti communiste français jusqu'à sa rupture dans les années 60. Et on va écouter Alain Grèche qui a préfacé, puisqu'il est il est mort, hein, mais on va écouter Alain Grèche qui a préfacé son livre le plus connu, Islam et capitalisme, un livre de 1966, réédité avec la préface d'Alain Grèche aux éditions Agone. Mais qui est pour vous Maxime Rodinson, qui est une sorte de critique du capitalisme, mais dans une association de l'islam et du socialisme?
Alors, Maxime Rodinson, c'était un chercheur marxiste d'abord, qui avait cette grille de lecture pour comprendre et analyser l'islam des premiers temps et l'islam contemporain. Mais c'est un chercheur qui a écrit des choses très intéressantes sur justement ce qui différencie et ne différencie pas l'islam en tant qu'institution économique. Et lui-même était arrivé donc par un chemin très différent
à la conclusion
conclusion que celle que j'évoquais au début de de notre entretien, qui est qu'en fait, l'islam au total est sans doute un facteur neutre dans ce qu'on peut comprendre des facteurs de la croissance et du développement économique au Moyen-Orient et dans la société musulmane au sens large.
Je vous propose d'écouter Alain Grèche, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et directeur aujourd'hui du site Orient 21, qui nous parle de Maxime Rodinson et d'ailleurs qui me tente de m'expliquer comment on prononce son nom.
Non, on dit Rodinson, son nom francisé, même s'il était issu d'une famille juive qui avait fui les pogroms à la fin du 19e siècle et qui s'était installé en France. Et donc, il était devenu français. Et c'est à la fois un spécialiste des langues sud-arabiques, c'est un linguiste, mais comme étaient les intellectuels de cette époque, c'est-à-dire des années 40-50, c'est quelqu'un qui touche à tout et qui va s'intéresser au monde arabe et musulman, qui va s'intéresser à Israël et Palestine, qui va jouer un rôle très important dans le débat intellectuel français. On l'a oublié un peu et c'est dommage parce qu'il a vraiment pesé dans tous les débats intellectuels sur l'islam, sur Israël, sur la Palestine.
C'est un marxiste ?
Oui, c'est un marxiste. Ses parents, en 1920, adhèrent au Parti communiste en France et lui-même va être, pendant un temps, membre du Parti communiste, assez actif. Il va rompre au milieu des années 50 à cause de la dérive stalinienne du PC. Et puis bon, voilà.
C'est un esprit libre aussi.
Il ne supporte pas que on lui dise...
L'embrigadement.
Oui, c'est l'embrigadement, mais bon, c'est pas seulement l'embrigadement, c'est le fait que à l'époque, c'est une époque où le PC peut avoir une opinion en tant que parti sur des choses qu'il ne maîtrise absolument pas, qui sont les sujets que Rodinson maîtrise. Et donc, il va prendre de la distance, mais sans jamais devenir un anticommuniste ou sans jamais avoir de compte à rendre, à régler avec le Parti communiste. Et il va développer des analyses de type marxiste et matérialiste, disons, sur toutes les questions liées au monde arabe et musulman, qu'il connaît très bien. Il va échapper au génocide des Juifs parce que à l'époque, il est au Proche-Orient. Donc, enseigné dans la région pendant la Seconde Guerre mondiale, ses parents vont être exterminés par les nazis. Et il va ensuite revenir en France et travailler comme un intellectuel. Voilà.
Son livre le plus connu s'appelle « Islam et capitalisme », qui a d'ailleurs été réédité en poche. Quelle est la thèse principale de ce livre ?
Donc c'est au milieu des années 60. Il y a toute une série de débats sur les raisons de ce qu'on appelle le sous-développement à l'époque, du tiers-monde, mais plus précisément du monde arabe et musulman. Et il y a des gens qui disent que ce sous-développement, il s'explique essentiellement par la religion musulmane. Et dans son livre, Rodinson démonte cette thèse en montrant que la religion musulmane, comme les autres grandes religions, se sont tout à fait adaptées au développement économique et social et que même quand des fois elles pouvaient avoir des dogmes qui pouvaient sembler hostiles au développement économique, dans la réalité, ils ont révisé les dogmes chaque fois. Parce que l'idée que c'est l'islam a été un frein au développement du capitalisme. Et lui, il dit non, pas du tout. Et une des raisons, d'ailleurs, c'est que Mahomet, Mohamed, est un commerçant. Il va, avant de faire la prédication, il est commerçant et donc il y a dans le Coran une espèce de valorisation du commerce, etc., qu'il n'y a pas forcément dans la Bible, par exemple.
C'est aussi l'idée, finalement, qu'on ne peut pas comprendre le monde musulman et le monde arabe uniquement par l'islam.
Il y a des gens qui pensent que, pour comprendre la manière dont fonctionne le Hamas ou le HTC en Syrie, où il faut lire le Coran. C'est absurde, je veux dire. Le Coran est assez souple pour qu'il puisse y avoir beaucoup d'interprétations. Et il y a eu, au cours de l'histoire, beaucoup d'interprétations. Ce qui permet de comprendre les mouvements politiques qui se réclament de l'islam, c'est la sociologie politique et les sciences politiques normales. Ça ne veut pas dire que l'islam et l'idéologie ne jouent aucun rôle. C'est-à-dire, Rodinson a beaucoup réfléchi sur ce rapport entre idéologie et... j'ai dit que c'était un marxiste, c'est-à-dire qu'il pense que c'est d'abord les conditions matérielles qui déterminent l'engagement des hommes, des idées, etc. Mais que les idées jouent un rôle, peuvent jouer un rôle, et que les différentes interprétations pèsent, mais qu'elles sont souvent faites pour justifier des politiques. Dans la préface, je rappelle cet exemple, c'est-à-dire qu'en 1950, les femmes égyptiennes descendent dans la rue en demandant le droit de vote. Le shir de l'Azhar, la plus grande instance de l'islam sunnite, dit « c'est contraire à l'islam ». 5 ans après, les femmes égyptiennes votent. Et 40 ans après, toutes les femmes dans le monde musulman votent. poser la question sur est-ce que le Coran est hostile ou non au droit des votes des femmes, ça n'a pas de sens.
On peut prendre aussi l'exemple des frères musulmans qui, à certaines époques, pensent telle chose et exactement le contraire sous d'autres régimes.
Oui, dans les années 50-60, l'idéologie la plus puissante, c'est le nationalisme arabe révolutionnaire représenté par Nasser, par le Baas, avec une connotation socialiste. Et donc, il y a une image assez positive du socialisme. C'est lié aussi au moment où l'Union soviétique sort du stalinisme. Il y a une politique de Khrouchtchev en direction du monde arabe. Il y a le lancement de Spoutnik. Bon, le socialisme a une image très positive. Et à ce moment, les frères musulmans, il y a un des frères musulmans syriens qui fait un livre sur le socialisme islamique pour dire non, les vrais socialistes, c'est pas eux, c'est nous. Aujourd'hui, les frères musulmans sont totalement ralliés au néolibéralisme en général. Ça montre la souplesse des interprétations religieuses.
À l'instant, Alain Grèche, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et directeur désormais du site Orient 21, qui parlait de Maxime Rodinson. Je l'ai interviewé ce mardi à Paris. Nous sommes avec Benjamin Marx, professeur d'économie à Boston University, sur une émission consacrée aux transitions politiques et au développement économique dans les pays musulmans. On a évoqué un certain nombre de structures, d'infrastructures, de piliers de l'islam qui peuvent jouer ou pas sur la question économique. Terminons ce passage en revue avec un certain nombre d'entre elles qu'on n'a pas encore évoquées. Commençons peut-être par le Ramadan. Est-ce que ça a des effets ne serait-ce que, évidemment, c'est difficile de travailler, par exemple, dans les champs, lorsqu'on ne peut pas boire ni manger, et qu'il fait, comme en Égypte ou
fait.
Ailleurs, très chaud. Mais est-ce que ça a un vrai impact?
C'est une question très intéressante à laquelle se sont intéressés de nombreux économistes, en utilisant notamment le fait que le calendrier lunaire
change
et permet de faire en sorte que certaines années, le ramadan coïncide avec, par exemple, la période des récoltes. Certaines années, ce n'est pas le cas, ce qui permet de faire des comparaisons statistiques un petit peu entre les années où il y a cette simultanéité et les autres années. Ce que ces études ont montré en général, c'est que le ramadan tend à avoir un effet négatif sur, par exemple, la production agricole. Donc là, je fais référence à une étude d'une chercheuse qui s'appelle Heather Schofield à l'Université de Pennsylvanie qui a fait précisément cet exercice. Elle regarde la production agricole en Inde et elle compare la production agricole dans les États de l'Inde qui ont une population musulmane importante dans les périodes où justement le ramadan coïncide avec la période des récoltes. Et en utilisant cette approche, elle est capable de montrer que la production agricole est plus faible dans les années comme ça où le ramadan coïncide avec la période des récoltes. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres études qui ont étudié l'impact du ramadan sur la santé à la naissance, par exemple, sur la santé des nourrissons, en relation avec le fait que certaines femmes, même si ce n'est pas considéré comme une pratique islamique acceptable, certaines femmes font le jeûne pendant le ramadan, et ça peut conduire également à des effets un petit peu négatifs. Donc c'est un petit peu l'état de la littérature sur ces questions-là. Alors bien sûr, ce ne sont pas des études qui nous informent sur les conséquences du jeûne en tant que tel. C'est vraiment le jeûne tel qu'il est pratiqué dans le cadre des sociétés musulmanes actuelles. Il peut y avoir effectivement des conséquences un petit peu néfastes sur le développement.
S'agissant du pèlerinage, donc le Hajj, notamment à la Mecque, est-ce que ça peut avoir des effets?
C'est aussi une question qui a été posée récemment dans la littérature scientifique. Il y a une étude fascinante qui utilise le fait qu'au Pakistan, pour aller à la Mecque, parfois il faut entrer dans une loterie puisque le nombre de visas pour aller en Arabie Saoudite est assez restreint pour faire le Hajj. Et certains auteurs, dont Michael Kremer, qui a gagné le prix Nobel d'économie il y a quelques années, ont montré, ils comparent simplement les Pakistanais qui gagnent cette loterie et ceux qui la perdent. Donc c'est presque aussi, ça se rapproche presque d'un essai randomisé, entre guillemets, puisque l'identité des participants au Hajj est presque déterminée par la chance dans ce contexte. Et cette étude montre que les participants au Hajj acquièrent au cours de ce processus, au cours de ce voyage, des attitudes de plus grande tolérance vis-à-vis d'autres groupes, groupes ethniques, groupes religieux, plus grande tolérance également vis-à-vis de la participation des femmes à la vie active, et en général des attitudes plus ouvertes sur toutes les mesures qu'on collecte en général dans ce type d'enquête. Donc là une étude qui entre guillemets donne une vision très positive et optimiste de ce pèlerinage. Ce que l'étude n'est pas en mesure de montrer, c'est à quel point le voyage du Hajj est différent d'un autre voyage dans des contrées lointaines. On évoquait dans la première partie de l'émission la phrase de Lévi-Strauss, je hais les voyages. Les voyages peuvent être synonymes d'ouverture, et le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, est un grand voyage qui, pour beaucoup de personnes dans le monde entier, est le seul grand voyage à l'étranger. Donc évidemment, c'est un événement qui peut avoir des vraies conséquences sur la vie de ces personnes.
Autre question, ce coup-ci d'ensemble, cette fois d'ensemble, la question au fond de la différence, de la diversité des islams dont on parle, et sans doute faut-il en parler au pluriel. Il y a des islams très rigoristes dans lesquels la charia est appliquée, d'autres dans lesquels elle ne l'est pas, etc. Je vous propose maintenant ce petit tour d'autres islams, et on peut partir par un islam européen, à savoir celui de la Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, où nous étions il y a 2 semaines, et où j'ai rencontré Ahmet Ali Basic, qui est professeur à la faculté d'études islamiques à l'université de Sarajevo, et je lui ai demandé de me décrire justement les différences entre l'islam, par exemple en Arabie Saoudite, et l'islam bosniaque, et quelle est la portée exacte de ces différences. Ahmet Ali Basic.
C'est différent, mais je ne pense pas que ce soit unique, dans le sens où aucune autre communauté musulmane en Europe ne pourrait atteindre les mêmes caractéristiques. Je pense que c'est différent en raison de son expérience. D'abord, avec l'Empire ottoman, puis avec une période de 40 ans sous l'Empire austro-hongrois. Ensuite, nous avons vécu sous un royaume dominé par les orthodoxes, une période qui n'était pas particulièrement heureuse. Puis nous avons traversé une période socialiste athée ou religieuse, antagoniste envers la religion. Et aujourd'hui, nous vivons dans un État libéral qui offre beaucoup aux personnes croyantes. Toutes ces expériences ont produit en quelque sorte une saveur particulière de l'islam bosniaque.
Le débat, c'est souvent, est-ce que cet islam-là est compatible avec les valeurs de l'Ouest ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Les musulmans bosniaques ont compris qu'il existe en réalité une grande compatibilité entre ce qu'on appelle les valeurs occidentales, les valeurs européennes et les valeurs islamiques.
Of course, it requires a lot of...
Cela nécessite bien sûr, avant tout, de faire l'expérience des choses, mais aussi de porter un regard critique sur les interprétations et pratiques héritées. Car très souvent, ce qui se tient entre deux cultures, c'est la culture elle-même, les coutumes et les traditions, et non pas la théologie ou les sources religieuses. Donc, il me semble que les musulmans bosniaques cherchent aujourd'hui à interpréter et vivre un islam qui puisse s'inscrire dans le cadre de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 9 qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cet article pose certains défis, aussi bien pour les musulmans que pour les sociétés européennes dans leur capacité à accueillir et intégrer les musulmans. Les musulmans doivent réviser leur théologie, notamment en ce qui concerne les privilèges religieux, l'apostasie ou l'application de la charia, par exemple. Cependant, ils voient aussi dans cet article 9 de nombreuses opportunités. S'il est interprété de manière bienveillante, il permet aux musulmans de pratiquer la majeure partie de leur religion sans trop de restrictions dans une société libérale.
Est-ce que vous voyez des différences sur le plan économique ?
Oui, peut-être que les musulmans rencontrent des difficultés en matière de développement économique, mais cela n'a rien à voir avec la loi islamique. C'est probablement davantage lié au gouvernement qu'ils ont eu, des gouvernements extractifs qui ne respectaient pas l'état de droit, ce qui a freiné l'économie et les investissements. Donc oui, J'admets qu'il peut y avoir des problèmes, notamment dans certaines interprétations rigides du droit transactionnel islamique. Je constate qu'il existe une flexibilité suffisante. Et en réalité, je ne vois pas de véritable obstacle majeur sur le plan économique.
h 45 en direct sur France Culture. Nous sommes avec Benjamin Marx, professeur d'économie à Boston University, aux États-Unis, pour une émission qui s'intéresse, après la chute de Bachar al-Assad, aux transitions économiques, au développement aussi économique dans les pays musulmans. Alors, on vient d'écouter un témoignage de Bosnie. On écoutera dans un instant un témoignage d'Indonésie, où nous étions. Benjamin Marx, est-ce que, au fond, quand on parle de l'islam, on ne se trompe pas, puisqu'il y a autant d'islam que de pays, et que de ce point de vue, les conséquences économiques que ça peut avoir changent radicalement d'un pays à l'autre.
Complètement. C'est peut-être ce qui distingue vraiment le monde musulman avant tout, c'est son immense diversité. L'islam tel qu'il est pratiqué en Arabie Saoudite n'a pas grand-chose à voir avec celui qui est pratiqué en Bosnie, en Indonésie, pour mentionner les deux pays.
En Malaisie, au Sénégal,
au Mali, tout à fait. Ce qui a fait le succès de l'islam historiquement, ça a été justement sa plasticité, sa faculté à s'adapter à différentes sociétés au fur et à mesure que le monde musulman s'agrandissait. Et au fur et à mesure de ce processus, l'islam a pu incorporer dans certains pays certaines pratiques locales, certaines cultures et traditions locales qui deviennent presque indissociables à l'heure actuelle de l'islam tel qu'il est pratiqué. Par exemple, l'islam confrérique du Sénégal soufi est donc très différent de l'islam tel qu'il est pratiqué au Pakistan. En Indonésie, les écoles islamiques, qui sont un sujet sur lequel je travaille, ont agrégé, ont incorporé des pratiques pédagogiques qui existaient avant l'arrivée de l'islam dans l'archipel. Donc, à chaque fois qu'on étudie ces institutions ou ces pratiques islamiques, on doit bien sûr faire très attention au contexte et aux spécificités de chaque société dans la pratique de la religion.
Alors partons justement pour l'Indonésie, où j'étais il y a quelques semaines. C'était début novembre, à Bandung plus précisément, donc sur l'île de Java, où j'aurais rencontré Teku Rezazia, professeur associé en relations internationales à l'université de Bandung, donc en Indonésie. Et je lui ai demandé précisément de m'expliquer en quoi l'islam indonésien était différent des autres islams. Teku Rezazia.
Indonesian Islam is unique.
L'islam indonésien est unique. Il est différent de l'islam dans d'autres parties du monde. C'est un mélange entre la philosophie islamique et les valeurs traditionnelles indonésiennes.
Islam philosophy and traditional values. For Muslims, we practice Islamic.
Nous, les musulmans, nous pratiquons les traditions islamiques, mais lorsqu'il s'agit de s'adapter à la vie réelle, nous respectons les différences.
Ça veut dire que vous n'appliquez pas la charia et la loi islamique, mais plus, on pourrait dire, des valeurs de l'islam ?
Yes. We apply Islamic values, not the law.
Oui, nous appliquons les valeurs islamiques, mais pas la loi islamique. Pour les lois sociales comme le mariage et pour les pratiques quotidiennes comme la prière qui révèlent de la loi islamique, oui, nous les suivons. Mais pour ce qui est de la vie sociale, l'islam se situe au niveau des valeurs.
We are more secular here.
Ici, nous sommes plus séculiers.
La constitution aussi, elle est séculaire d'une certaine manière.
La constitution indonésienne est séculière. Elle respecte toutes les religions présentes en Indonésie. Même si l'islam est la religion majoritaire, nous ne considérons pas que l'islam doit être une obligation lorsqu'il s'agit de gérer la nation. L'islam doit fonctionner dans un cadre où la prise de décision repose sur la consultation et le consensus. Et l'islam en Indonésie respecte les différences.
On doit aussi reconnaître qu'il y a des provinces ou des régions d'Indonésie qui sont beaucoup plus musulmanes et beaucoup plus pratiquantes.
Yes, we have to acknowledge, but by population, there are certain provinces in Indonesia
Oui, on doit reconnaître qu'il existe de nombreuses provinces en Indonésie où les musulmans, en raison de leur population, sont actifs en politique. Mais nous, en tant que musulmans, nous connaissons nos limites. Nous ne disons jamais qu'il faut pratiquer une loi islamique totale. Non. Lorsqu'il s'agit de voter des lois au niveau local, nous reconnaissons le rôle du non-islam.
Est-ce que ça a des conséquences dans le développement? Est-ce que le fait d'être un pays musulman freine ou au contraire aide ou est neutre du point de vue du développement économique?
En
ce qui concerne le développement économique ici, je ne vois pas de valeur islamique présente. L'économie indonésienne repose sur des valeurs séculières. Cela a donc suscité des critiques de la part de la majorité des musulmans, car ils estiment ne pas être représentés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous essayons de combiner les valeurs économiques modernes avec les valeurs islamiques.
Mais en termes, par exemple, de prêts bancaires, de philanthropie, l'islam n'a pas une influence ?
En tant que musulmans, nous ne sommes pas satisfaits de voir les règles et les normes capitalistes dominer ici. Car l'idée repose sur le soutien aux élites avec des valeurs économiques libérales. Pour la majorité, nous ne sommes pas satisfaits de cette situation. Mais pour y remédier en Indonésie, les musulmans doivent rivaliser pour devenir une élite et agir comme de bons veilleurs dans l'élaboration des politiques économiques. C'est pourquoi nous constatons un problème. L'islam est mal représenté dans la prise de décision en matière de politique économique. Cela constitue une grande préoccupation, car nous avons tendance à libéraliser notre économie, souvent au détriment des masses populaires. Il est grand temps pour l'Indonésie de réfléchir à la libéralisation et à l'économie mondiale, tout en prenant en compte la nécessité de renforcer le pouvoir des masses.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h51, nous sommes avec Benjamin Marx, professeur d'économie à Boston University aux États-Unis, pour une émission consacrée notamment aux transitions politiques et développement économique des pays musulmans après la chute de Bachar el-Assad. Alors on a parlé avec l'exemple bosniaque, l'exemple indonésien de l'hétérogénéité. On aurait pu parler de la Malaisie, du Pakistan, du Sénégal, du Mali, d'autres pays. Mais très souvent, ce qui est en jeu, c'est d'abord et avant tout le régime politique mis en place. Ça peut varier fortement d'un pays à l'autre. Est-ce que, première question, l'islam a des conséquences en termes de régime politique? Est-ce que c'est étudié? Que disent les chercheurs sur ça? Et ensuite, en fonction de la politique, bien sûr, c'est plus l'islam, mais c'est les politiques dans ces pays musulmans qui vont avoir des effets économiques.
Alors là encore, il y a dans le monde musulman une immense diversité entre d'un côté un régime comme l'Iran depuis 79 qui est une véritable théocratie avec une présence très importante de la religion dans toutes les institutions de l'État, et puis de l'autre côté du spectre des pays où la religion finalement joue un rôle assez faible, car la constitution est complètement laïque. La question qui s'est historiquement posée dans le monde musulman, c'est justement est-ce que la pratique islamique impliquait de s'engager en politique ou pas. Et en fait,
Il y a beaucoup de différences.
Il y a eu des réponses complètement différentes et divergentes qui ont été données à toutes les époques. Donc les frères musulmans, depuis leurs origines, se sont distingués justement par leur participation à
leur entrisme. Voilà, leur entrisme, disent certains.
Par leur activisme et un fort désir d'influencer la vie politique.
Ça leur a coûté très cher sous Nasser. Sous Moubarak et surtout sur Al-Sisi,
voilà,
maintenant.
Donc il y a eu une très très forte répression sous Nasser. La même chose s'est un petit peu passée en Indonésie à certaines périodes où, sous le régime de Suharto, il y a eu une répression assez forte de l'islam politique. D'autres mouvements au sein de l'islam refusent absolument la participation politique. Donc le wahhabisme tel qu'il est pratiqué en Arabie Saoudite et au-delà, même s'il est proche des frères musulmans sur certains points de théologie, est en désaccord fondamental sur cette notion de participation à la vie électorale, publique et politique. Ce sont d'ailleurs des questions qui se sont posées à une certaine époque dans le monde chrétien, dans le monde catholique également. Donc
qu'on appelle le cléricalisme, tout simplement.
Exactement.
Est-ce qu'il faut participer à la vie politique ou pas?
Donc là encore, il y a des vraies différences entre les différentes sociétés, et ce sont des choses qui évoluent. Bien entendu, la période actuelle au Moyen-Orient, depuis les printemps arabes, est une période de forte instabilité, où il y a à certains moments un reflux, et à d'autres moments une augmentation de l'influence de ces acteurs religieux dans la vie publique.
Ça signifie que l'islam peut avoir un certain nombre de conséquences politiques, mais après, c'est ces effets politiques qui vont jouer sur l'économie, et tout dépend des régimes en place. Al-Sisi, par exemple, en Égypte aujourd'hui, qui a des relations très hostiles et très, très mauvaises avec les milieux d'affaires, alors que son prédécesseur, antéprédécesseur Moubarak, avait plutôt de bonnes relations. Ça dépend ici ou là en fonction des différents facteurs. Il faut forcément, en Syrie, on va voir vers quelle direction ça s'oriente.
C'est une des questions qui est posée en Syrie. Dans quelle mesure la gouvernance telle qu'elle sera pratiquée par le nouveau régime à Damas, est-ce que cette gouvernance se rapprochera d'un modèle à l'afghane, entre guillemets, avec une très forte présence des règles et des institutions islamiques dans la vie quotidienne, ou au contraire, est-ce qu'ils se dirigeront vers une gouvernance plus laïque, entre guillemets?
Une question dont on n'a pas parlé, qui est la question des familles, et notamment du patriarcal. L'islam a tendance, comme d'ailleurs toutes les religions, à défendre un modèle familial classique, patriarcal, où au fond le travail des femmes n'était pas toujours souhaité, même si Alain Grèche montrait tout à l'heure qu'elles votent quand elles peuvent et qu'elles travaillent de plus en plus. Est-ce que ça a des effets, l'islam, sur justement par induire ce patriarcat sur les modèles économiques qui en découlent?
La question du travail des femmes et de la participation des femmes dans la vie active est l'une des questions centrales économiques dans le monde musulman actuellement. Je regardais par curiosité hier soir les rapports les plus récents de la Banque mondiale sur l'Afghanistan. Donc depuis,
le samedi soir, vous lisez les rapports de la Banque mondiale sur l'Afghanistan.
Pourquoi pas? Et ce que la Banque mondiale met en avant, c'est précisément ça. Est-ce que tous les freins que le régime taliban impose à la participation des femmes, dans quelle mesure ça va nuire à la reprise de l'économie afghane, qui a évidemment beaucoup souffert des conflits divers et variés depuis des dizaines d'années. Cette question de la participation des femmes, c'est vraiment la question centrale. On parlait de l'Indonésie. En Indonésie, il y a beaucoup de théologiens islamiques qui poussent pour une approche plus ouverte, justement, sur cette question de la participation des femmes pour promouvoir la croissance.
On aurait pu aussi parler du mariage entre cousins germains, qui est encore très fréquent dans le monde arabe et qui, disent certains, empêche la diversification des richesses et la redistribution de des logements, des maisons, des entreprises. Mais concluons peut-être finalement après cette longue émission et ces différents témoignages que nous avons entendus. Si on résume un peu ce que vous nous avez dit ce soir, Benjamin Marx, on a l'impression que, au fond, le rapport entre l'islam et l'économie, c'est multifacteur et qu'on peut difficilement en déduire grand-chose.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Beaucoup de choses, mais c'est effectivement multifactoriel et complexe et plein de nuances, très loin des lectures un petit peu simplistes qu'on peut lire parfois dans certains médias, un peu partout dans le monde.
Comme si l'islam était finalement très vague, trop vague comme idéologie, disons comme superstructure, hein, pour parler comme Marx, l'autre Marx, pour influencer l'économie et, vous l'avez dit, une grande plasticité de l'islam. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir, Benjamin Marx.
Merci,
professeur d'économie à Boston University. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission a été réalisée ce soir par Alexandra Malka. Toutes les traductions étaient de Éléonore Duisabeau. La semaine prochaine, dans Soft Power, je recevrai le conseiller culturel du président de la République ainsi que le patron d'Aéroport de Paris, ADP. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, l'influence créative, un seul podcast, un seul podcast hebdo gratuit sur Spotify ou sur l'application Radio France de votre smartphone. Soft Power, c'est la fin de cette tranche d'actualité et en direct, culture, médias, international et numérique, l'influence créative, le soft power.
France Culture.
Vous avez fait une grosse sieste cette année, non ? Pas de problème, aucun souci. France Culture vous propose ses incontournables. Romans, séries, films, littérature pour enfants ou pour adultes, essais, découvertes scientifiques, bref, il y en aura pour tout le monde. Les incontournables de culture. Saison 2024, à offrir, à partager, à déguster. Sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
La recherche, une histoire de famille.
Xavier Mauduit.
C'est le jeu des sept familles, mais appliqué à la recherche scientifique. Avec les Curie, une famille rayonnante, et avec les Cassini qui jouent carte sur table. Le père, la mère, les enfants et parfois tout l'arbre généalogique. En histoire, c'est la famille Crouzet. Et en histoire de l'art, ce sont des couples entre quatre yeux.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Voilà, dans une poignée de secondes, il sera 20h. Vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos réactions, vos commentaires, vos critiques. Soft Power, France Culture, 116 avenue du Président.